Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cory dans Hacker Joie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Apparemment, il y a une nouvelle mode avec la course à pied. Et sache que si toi tu n'as pas adhéré au concept, cet épisode il est quand même peut-être fait pour toi. Parce que qui sait, déjà je vais peut-être te donner envie tout simplement, mais on va aussi parler juste d'objectifs, de nouvelles routines, peut-être de dépassement de soi. Donc ça peut toujours t'intéresser. Et si c'est le cas, c'est parti pour la suite de l'épisode. En ce moment, je trouve qu'il y a vraiment une tendance avec la course à pied sur les réseaux. Je sais pas si c'est parce que je m'intéresse de plus en plus et que du coup j'en vois de plus en plus, que je remarque de plus en plus le contenu qui tourne autour de ça. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais j'aimerais ici quand même toujours faire preuve de bienveillance et rappeler que si tu ne cours pas, si tu n'aimes pas courir, franchement, c'est pas un souci. Il y a d'autres sports qui sont très très bien. Et en tant que coach sportif, je peux me permettre de dire que aucun sport n'est magique, la course à pied non plus. Si tu cours parce que tu en as envie, que tu as besoin de te challenger à en faire cette discipline, fais-le. Mais si c'est pas ton dada et que tu choisis autre chose, franchement, aucun problème. Juste essaye de bouger le plus possible parce que ça sera toujours bénéfique, que ce soit mentalement ou physiquement. On ne peut pas enlever quand même le bienfait de l'activité physique en général. Donc aujourd'hui, on va parler de mon premier 10 km avec un dossard. Dimanche 7 avril, j'ai couru ce premier 10 km et je vais rapidement vous retracer cette histoire et on va aussi un petit peu discuter ensemble de pourquoi cette course, de la préparation, de l'objectif et ce que ça a pu m'apporter. Et je vais essayer de vous donner quelques conseils pour ceux qui aimeraient passer le cap, qui se sont mis le challenge de faire une course. Puis surtout, sans vous spoiler, mais il faut quand même un petit peu attiser votre curiosité, il semblerait qu'à la fin de l'épisode, je vous annonce la suite du challenge entre Cory et la course à pied. Je vous en dis pas plus, mais on se retrouve à la fin de l'épisode pour débrief ça et pour l'annonce, hein. Alors on va quand même recommencer du début. Donc je suis coach sportive, ce qui fait que j'ai un passé de sportive dans le sens où depuis mon plus jeune âge, déjà j'ai toujours fait du sport. De mes 6 ans à mes 14 ans, il me semble peut-être un peu plus, j'étais nageuse. Donc je suis plutôt comme un poisson dans l'eau. J'ai passé mes diplômes de maître nageur sauveteur. Et même si je nage plus beaucoup, du moins moins régulièrement, c'est une discipline que j'adore. À côté de ça, j'ai toujours fait du sport. À l'école, c'était ma matière préférée. Le week-end ou dans ma vie en général, on m'a toujours un peu tirée vers les épreuves sportives et bouger au maximum et faire du sport. Et à mes 14 ans, j'ai décidé d'arrêter la natation pour commencer la gymnastique. Jusqu'à encore 2 ans, je continuais de pratiquer cette discipline. Mais bon, on va voir par la suite. Je me suis blessée. On va être obligé de reparler de cette blessure tout à l'heure. Et puis, vous allez voir pourquoi, mais j'ai fini par arrêter la gym. Et à ce jour, j'entraîne toujours dans mon club. Mais on va dire qu'entre natation et gymnastique, on voit bien que la course à pied, ça n'a pas été au cœur de mon activité physique durant toutes ces années. Plus de ça, c'est pas du tout le même type d'effort. Niveau endurance, à la gym, on n'est pas top top, quoi. J'ai fait une licence TAPS, donc il y a quand même eu du sport. Et aussi, j'ai couru un trail. C'était un trail un peu bizarre parce que c'était un mélange de course à pied et de vélo. Enfin, c'était même plutôt du VTT. Quand j'étais, il me semble, à cette première année de licence, mais je me souviens pas exactement. Bref, c'était avec mon père, c'était une course en duo. J'arrive pas à me souvenir correctement, mais à ce moment-là, j'allais un petit peu courir quand même avec lui dans la garrigue. Il y avait un petit peu de dénivelé. Mais ça n'avait pas trop duré non plus longtemps cette prépa. Je me souviens pas avoir dit j'ai fait une préparation de fou. Voilà, c'était une courte période. En tout cas, elle n'avait pas été envisagée de la même manière que le 10 km qui est là. Donc voilà, c'est quand même pour vous dire que j'avais un tout petit peu couru dans ma vie, mais c'était il y a quasi 6 ans. C'est horrible de dire ça, mais ouais. Personnellement, j'ai l'impression que cette mode-là de la course à pied, elle est arrivée il y a peut-être 2-3 mois. J'ai pas eu l'impression d'en avoir vraiment entendu parler avant, peut-être parce que je n'y faisais pas attention aussi. Mais en fait, cette histoire, pour moi, ça a commencé début 2023. Il faut savoir que, en fait, en début d'année, ça fait 2-3 ans que chaque année, je fais un petit débrief de l'année qui est passée et j'écris les objectifs que j'avais fait pour l'année suivante. Je vous avais un petit peu partagé, j'ai même fait une vidéo YouTube là pour l'année 2024. Mais que ce soit professionnellement ou personnellement, en début d'année, j'écris et en janvier 2023, j'avais écrit que j'aimerais faire un 10 km et un triathlon. parce que j'avais envie de me challenger avec la course. En vrai, je m'en rappelle pas beaucoup, mais triathlon, je sais que je m'étais dit, comme tu sais nager, t'as envie de te remettre à la course à pied, il restait plus que le vélo, je trouvais ça cool de tester une nouvelle discipline, donc je m'étais mis ça comme objectif. 2023 a bien commencé à s'écouler, je m'étais encore inscrit nulle part à aucune course, puis je dis à ma sœur, tu veux pas qu'on s'inscrive à un 10 km? Comme ça, je coche mon objectif. Puis ça me ferait plaisir d'essayer de me remettre à courir et tout. Donc on a décidé ça en octobre à peu près, de s'inscrire aux 10 km pour mi-décembre. Autant vous dire que je l'ai pas du tout appréhendé comme celui-là de Montpellier. Parce qu'au final, je me disais que j'étais capable de courir 10 km. Alors je sais pas dans quel état je finirai et en quel chrono, mais on dit que quand même 10 km, c'est une distance qui est accessible et je me sentais capable d'arriver au bout. Sachant que voilà, je suis un minimum sportif, donc je pensais pouvoir y arriver. Je suis quand même allée courir 2-3 fois, mais je courais ouais, moins d'une fois par semaine, enfin il y avait zéro régularité. Et en fait, mi-novembre, je sais pas si vous avez suivi sur Insta, je l'avais mis, mais je me suis brûlée la cuisse avec de l'eau bouillante. J'ai été brûlée au second degré profond, donc toute ma peau commence à partir, j'avais une grosse plaie, et j'ai été interdite de courir pendant un moment parce qu'il fallait surtout pas que je transpire, il fallait pas que ça s'infecte, il fallait pas que j'aie de frottement, et on était en décembre, donc il faisait super froid, je pouvais pas mettre de quelque chose dessus, j'allais pas courir en short parce que ben, je pouvais pas laisser mes jambes en l'air, j'avais des bandages et tout, enfin c'était vraiment la galère, mais jusqu'au dernier moment je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir la faire. Au final, j'ai dû abandonner vu qu'on m'a interdit et j'ai laissé ma sœur la faire toute seule. Bon, elle a géré, moi je suis restée sur la touche, ce qui fait qu'en 2024, en janvier, en reprenant ma liste d'objectifs, je n'ai pas du tout coché le 10 km, encore moins le triathlon, et j'ai dû écrire à nouveau mes objectifs. Et franchement, j'étais frustrée. Donc j'ai réécrit faire un 10 km, et là, je voulais vraiment le faire. Et pour le triathlon, je me suis dit plutôt peut-être faire du swim and run, parce qu'en fait le vélo de route, ça ne m'attire pas du tout. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi se forcer alors que je peux trouver un combo avec des choses qui me correspondent un petit peu plus? Donc fin janvier 2024, j'ai dit ok, je m'inscris, il faut que tu la fasses cette course, prends-toi-y le plus tôt possible. De nouveau parlé à ma soeur et à ma meilleure pote, et je leur ai dit les filles, je veux le faire. Elles m'ont dit c'est bon. J'ai regardé, il y a les 10 km de Montpellier. Début avril, qui nous ferait exactement 77 jours de préparation. Elles m'ont dit oui, dans la foulée, je nous suis inscrite et c'est là que c'est parti. Et ce coup-ci, normalement, c'était parti pour de vrai. J'espérais qu'il ne m'arrive rien. J'y suis allée dans un état d'esprit totalement différent. J'avais vu ma sœur qui s'était quand même donnée, qui avait fait une planif, qui s'était tenue aux entraînements, qui avait bien progressé. Et en fait, je me suis dit, bah, vas-y, prends-le au sérieux. C'est pas parce que t'es sportif que tu gères la course à pied, en fait. Tu sais pas courir, tu cours jamais. Donc, c'est pas grave, mais mets-toi-y sérieux. Et je trouvais ça trop bien parce que comme j'ai arrêté la gym, j'ai oublié de dire, mais j'avais commencé le hand, du coup, la saison dernière. Mais c'est complètement différent. Bon, déjà, là, c'était la première chose, c'était la première fois que je faisais un sport co. Mais ça me manquait, j'avais besoin de cet esprit compétitif et un petit peu me challenger personnellement. J'ai téléchargé l'application de Decathlon, ça s'appelle Run Pacer. J'ai rentré la date de ma course et là, ils m'ont demandé est-ce que j'avais un objectif, si je voulais estimer un temps. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je voulais faire moins d'une heure. En rentrant cet objectif, ils m'ont demandé si j'avais déjà des statistiques de course pour qu'ils puissent un petit peu évaluer mon niveau. Donc j'ai rentré un run que j'avais fait. Bon, j'avais pas tout donné, mais en même temps, je donnais jamais tout sur mes runs avant cette prépa. Et en fait, là, je rentre ça et ils me disent, votre objectif est inatteignable. Autant vous dire que je me suis pris un coup. Et ils m'ont dit, on vous conseille de faire pas deux, mais trois séances d'entraînement par semaine pour essayer d'y arriver. J'ai dit, allez, je clique. Trois séances d'entraînement. Ils m'ont proposé de faire une semaine test avec une évaluation de la VMA pour ensuite un peu replanifier mon programme d'entraînement. J'ai accepté. L'objectif était là. Ça me disait J-77 jours pour courir mon premier 10 km avec un dossard. Et c'était parti. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est franchement de vous inscrire à une course et ça pourra que vous motiver à vous mettre à courir, à tenir votre plan d'entraînement, à faire vos séances. Même si vous n'aimez pas la compétition, franchement, on ressent pas trop ce truc de se battre contre des adversaires quand on est dans une course. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça du tout. Même c'est différent qu'un match de hand, c'est différent qu'une compétition de gym. C'est plutôt une compétition avec vous-même. Vous vous êtes entraîné, vous êtes là pour voir ce que ça a donné, pour ouais, vous challenger sur cette course, pour concrétiser un peu vos efforts durant les séances d'entraînement et passer à l'étape suivante. Donc vraiment, le conseil numéro 1, c'est choisir une course qui est dans 2-3 mois. Pas trop longtemps non plus, je pense, parce que sinon, c'est un coup à lâcher prise. Et deuxième conseil, télécharger une application. Il en existe plein. Là, je vous parle de Run Pacer, elle est gratos et ça permet de varier vos séances. Vous pouvez débriefer vos sensations Et je trouve que c'est un vrai plus. Personnellement, j'avais aussi déjà Strava, mais là, je me suis remise à partager un petit peu mes entraînements sur Strava. Et le fait de voir vos distances qui augmentent et votre allure qui augmente, c'est super encourageant. Ça booste votre motivation. Ça vous donne envie de continuer et à se dépasser chaque séance. Aussi, je me suis mise à partager en story. Donc, je vous ai partagé toutes les séances de mes 10 km. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre à tout partager en story. Mais c'est vrai que quand je recliquais dans ma story à la une et que je voyais mes allures qui augmentaient, franchement, ça me boostait. Donc, ouais, les deux conseils primordiaux pour moi, c'est vraiment vous inscrire pour avoir un objectif final et prendre une planif, prendre une appli qui vous boostera et qui permettra de tenir un petit peu plus la motivation. Je me souviens que la première fois que je suis allée courir suite à cette inscription du 10 km, j'avais quelque chose de prévu en fin d'après-midi et je me suis dit, tu vas aller courir, tu vas aller faire ta première séance avant. Et j'avais hâte de rentrer dans l'application, le débrief de cette séance, voir ce que ça avait donné. Ça m'a trop motivée à mettre mes baskets et hop, je suis partie courir. J'ai fait ma première séance seule. Et là, dans ma tête, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, t'es trop contente. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et franchement, au fond de moi, je ne croyais pas que j'allais y aller 3 fois par semaine. Je pensais pouvoir tenir un peu plus que la première fois quand même, mais 3 fois par semaine, vraiment, honnêtement, j'y croyais pas. Je pensais pas que j'allais autant prendre goût à ça, autant goût à la course. Donc les entraînements ont commencé, j'ai passé ma première semaine, j'ai fait mes tests VMA. À partir de ça, il m'a un peu replanifié mes entraînements. Et les premières séances se sont enchaînées, j'allais courir 3 fois par semaine comme prévu. Alors des fois, je manquais un petit peu de temps, donc je réduisais par exemple le temps d'échauffement ou le temps de récup. Mais globalement, je faisais les séances comme prévu et je voyais mes temps qui commençaient à s'améliorer. Je sais que ce qui a été un petit peu un frein, c'est que j'ai quand même commencé l'hiver. Parce qu'en janvier, il faisait nuit assez tôt. Je voulais pas aller courir dans la nuit, donc il fallait que je trouve d'autres moments dans la journée, c'était pas toujours simple. Je voulais pas courir au bord des routes parce que j'aime pas, donc il fallait que je trouve des petits parcours de santé ou des petits lacs, des petits endroits où j'avais envie d'aller courir, où je me sentais aussi en sécurité. Et les températures qui étaient encore un petit peu froides, pourtant j'habite dans le sud donc ça va, mais les jours où il pleuvait, les jours où il faisait pas très beau, ou les jours où il y avait du vent, où il faisait froid. Franchement, c'était compliqué d'aller à la séance et c'est là où j'ai essayé de trouver quelqu'un pour m'accompagner parce que c'est plus motivant et ça me permettait de ne pas faire sauter la séance. Et des fois, bah, j'étais seule, fallait que je me dise, allez ma cocotte, maintenant tu y vas, souviens pas de toi pourquoi tu le fais. Et ça, il faut vraiment s'encourager, se dire à la fin tu seras contente. Au pire, tu réduis un peu ci, tu réduis un peu ça, mais franchement, sors, même 5 minutes, c'est mieux que zéro. En tout, il me semble que j'avais 11 ou 12 semaines d'entraînement et sur ces 12 semaines, mis à part la blessure, on va en reparler du coup, donc sur les 15 derniers jours. J'ai raté que 2 séances, il me semble, et c'est hyper gratifiant de se dire, tu t'y tiens, t'as fait comme prévu, tu progresses, et t'as bien fait de t'inscrire parce que ça t'aide et tu vas aller au bout du projet. Ce que je tiens à dire, c'est qu'au début, je me comparais énormément. J'en voyais plein sur les réseaux, et même les personnes que j'avais sur Strava, et pourtant j'avais des personnes qui couraient depuis des années, mais je me disais, waouh, comment ils font pour courir aussi vite? Ou alors je voyais des personnes sur les réseaux aussi, mais qui se mettaient à courir et qui paraissaient moins sportives que moi, et là, elles me mettaient la misère sur la course, ou si c'était pas la misère, elles étaient meilleures que moi. Et vraiment, pendant plusieurs semaines, je regardais les temps et tout, je me comparais, je me trouvais nulle. D'un autre côté, je me disais, bon, tu peux peut-être faire un peu mieux, mais pas tant. Je me rappelle que je comparais les dénivelés parce que, quand même, ça joue. Alors, il y en a qui disent, les dénivelés pour 100 mètres, c'est pas du dénivelé. Mais des fois, je faisais des séances où il y avait 150 mètres de dénivelé. Et j'en voyais d'autres qui faisaient la même chose que moi, mais sur 20 mètres de dénivelé. Je me disais, même si c'est pas beaucoup, quand même, ça joue un peu. Donc en fait, j'essayais de me rassurer dans mes chronos. Et un jour, ça m'a saoulée de regarder les chronos des autres. Je me suis dit, ça t'apporte rien du tout. J'en ai marre, t'es censée faire ça quand même pour kiffer et progresser, et voilà. Du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté de regarder. J'ai plus ressenti l'envie de regarder ce que faisaient les autres. Je me suis focus un peu plus sur ce que je voulais faire, sur mes progrès. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, là, ben après ma course, j'ai repensé à certaines personnes où j'avais vu leur allure. Et je suis allée voir et je me suis dit, ah ben en fait, maintenant, tu cours plus vite qu'elles. Alors qu'au tout début, il y a 2 mois, elles étaient meilleures que toi. Et je me suis dit, t'as bien fait de t'en détacher, de pas regarder. Parce que le plus important, c'était de rester focus sur ce que tu fais, d'être disciplinée, d'être régulière. Et ce qui est trop encourageant, c'est de se dire que dans la course à pied, tu progresses quand même très très vite. Moi, perso, enfin, j'ai fait de la gym. Si on pouvait progresser autant vite en gym qu'en course, ça serait ouf. On ferait plein de figures extraordinaires. Partir de rien et en faire beaucoup. Il y en a qui préparent un marathon en 1 an. Je dis pas que c'est simple. Je pense que c'est très 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 compliqué. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais c'est possible parce que tu peux vraiment avancer vite. Donc voilà, te compare pas. Même moi sur Insta, je mettais mes stories à la une. Et un jour, je me suis sentie obligée de mettre un message en disant, si je vous partage mes allures, c'est vraiment pour vous encourager et vous montrer que déjà, je suis pas une championne. Et si jamais vous courez moins vite que moi, juste pour vous montrer, regardez les stories à la une, prépa des 10 km, qu'en fait, on peut progresser vite et qu'en quelques mois, j'ai vraiment progressé, je cours de plus en plus vite. Et voilà que mon message était bienveillant et pas il faut se comparer. Et j'avais trop peur que ouais, les gens, du coup, le prennent mal ou eux aussi se comparent à ce que je mettais. C'était pas du tout pour montrer mes temps, c'était plus pour dire, bon, ben, ça progresse et on est sur la bonne voie, quoi. Surtout que se mettre à courir, c'est se mettre à courir. Et on le voit pour des personnes qui font des semis ou des marathons, que la personne ait fini sa course en 3h30 ou elle ait fini le marathon en 5h, ils arrivent au bout, ils sont trop émus, ils sont trop fiers d'eux, il y en a qui pleurent. Et je pense que c'est le plus important, il faut pas oublier que on concourt pas vraiment contre des gens, mais contre nous-mêmes. Et il y en a, ça fait peut-être des années qu'ils font. Et vous, si ça fait qu'une semaine, 2 mois, peu importe, vous avez le droit d'être fier d'avoir couru. Et c'est une première expérience, c'est très bien. Préoccupez pas des temps, des allures de qui fait mieux ou qui fait moins bien. Donc les semaines passent, il y avait des séances plus ou moins faciles et plus ou moins difficiles. C'était quand même toujours un petit peu le même principe de prépa, moi, sur mes semaines. J'avais une séance avec du fractionné. C'était sous différentes formes, mais par exemple, des fois, c'était 8 fois 30 secondes d'effort rapide, 30 secondes de récup. Donc ça, 8 fois, 30, 30, 8 fois. Des fois, c'était 6 fois 200 mètres à une allure soutenue. Enfin voilà, défractionné sous différentes formes. Deuxième séance, c'était une séance d'allure spécifique. Donc c'est-à-dire que je devais me rapprocher de l'allure de course à laquelle je voulais aller le jour J. Donc moi, il fallait que je fasse à peu près 5, 58, on va dire, minutes au kilomètre pour faire moins d'1 heure. Et au fur et à mesure des séances d'entraînement, la distance sur laquelle je devais tenir cette allure augmentait. Là, c'était pas les séances les plus agréables parce que c'était un peu plus soutenu. Et la dernière séance de la semaine, c'était de l'endurance ou de la récup selon les phases d'entraînement. Et c'était un timing plus tranquille. Et c'était entre 5 et 9 km selon les semaines. Je courais au début 20 km par semaine, il me semble, jusqu'à 30, 35 max ou 33 dans les dernières semaines. Et en fait, c'était découpé par phase. Il y avait donc la phase d'évaluation au tout début, où ils m'ont calculé ma VMA. Après, il y avait une phase un peu plus spécifique, où on se concentrait sur les allures de course. Et là, il y avait des phases plus ou moins intenses, où j'avais des kilométrages plus ou moins longs, et des semaines un peu plus récup. Et la dernière phase, c'était la phase d'affûtage. Donc là, c'est petit à petit, on réduit la charge d'entraînement, ça avant la course. Tout se passait plutôt bien pour moi. Niveau équipement, perso, je courais avec mes Hoka. Mes baskets que j'avais depuis un petit moment, je les avais pas beaucoup utilisées, je me sentais vraiment trop bien dans les chaussures. Donc j'avais fait mes entraînements avec celles-ci et j'ai fait ma course avec celles-ci. Parfois je variais, j'avais des Nike mais qui commençaient à être abîmées, je les mettais moins. Je me sentais pas très bien, j'avais l'impression de sentir le sol, enfin c'était pas ouf. Pour ceux qui connaissent ça, bien sûr que j'ai eu des périostites. Donc faut savoir c'est une inflammation de la membrane de l'os du tibia. Donc ça fait très mal tout le long du tibia. En fait, je connaissais déjà parce que à STAPS quand je faisais de l'athlétisme, j'avais un petit peu eu des périostites. On faisait du pentathlon, on avait fait un peu de 800 mètres. Donc c'était une douleur qui me parlait. Et avec la gym, j'en avais aussi. Il y avait des périodes où c'était vraiment horrible avec les sauts, le praticable sol. Voilà, il y avait des périostites. Et là, ça revenait quand même à quelques périodes des séances d'entraînement. J'essayais de bien me faire le rouleau. J'essayais de me masser, de faire des étirements. Et aussi, j'avais essayé de courir avec des manchettes, enfin des manchettes pour les jambes. Donc des bas de compression spécifiques à la course. C'est vrai que j'adore pas courir avec des choses comme ça. J'ai l'impression que ça me gêne. Donc je les mettais pas tout le temps, par peur que ça me fasse les jambes lourdes. J'avais l'impression que ça me faisait ouais, un rendu de jambes lourdes. Ça me bloquait un peu la circulation. Enfin, c'était peut-être psychologique. Mais du coup, je les mettais pas tout le temps. En tout cas, quand je les mettais, mine de rien, ça m'a quand même permis un peu de réduire les douleurs. La suite niveau équipement, alors on dit que c'est bien de courir avec des chaussettes spécifiques, des chaussettes un peu comme le trail ou avec des pointes de compression. Moi, pour le coup, je pense que je faisais pas assez de sorties, assez de kilomètres dans la semaine pour avoir des ampoules ou mal aux pieds. Donc classique, j'ai couru en soquette. J'ai pas du tout l'habitude de mettre des chaussettes hautes ou d'autres chaussettes, donc ça m'a pas du tout gênée. Maintenant, à vous de voir. Et ensuite, j'avais pas plus d'équipement. Je partais toujours avec mes clés à la main, mon téléphone dans l'autre main. J'ai juste une Apple Watch quand même. Donc je rentrais mes séances sur la montre. C'est bien parce que tu peux programmer tes séances qui sont prévues par rapport à l'appli. Et en fait, ta montre, elle vibre ou elle peut même te parler en te disant top, c'est parti, stop, c'est ta récup. Attention, tu vas trop vite, attention, tu vas trop lentement. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus confort durant ta course. Mais sinon, tu peux très bien prendre ton téléphone et mettre Strava, top chrono, et t'arrives à gérer tes allures. À 3 semaines de la course, je me suis dit, tu vas quand même t'acheter une petite ceinture de running. Je voulais pas un gilet d'hydratation avec les gourdes, etc. Pour un 10 km, je me suis dit, juste une ceinture, ça ira. Ou au moins, tu pourras mettre tes clés, ton téléphone et un petit peu à boire si jamais tu as envie. Donc, j'étais allée acheter ça à Intersport. Je suis allée courir une fois avec. J'ai trouvé ça trop bien. Je mettais mon tel, mes clés. Enfin, c'était plus confort. J'avais les mains libres. Même si je m'y étais habituée, c'était quand même plus sympa. Et deuxième run où je devais prendre ma ceinture, c'était mon run qui devait être le plus long de toute la prépa. On était dans les 2 dernières semaines intenses, avant la semaine d'affûtage où ça allait être plus cool, juste avant la course. Donc il fallait que je coure 12-13 km, je sais plus trop. Et franchement, ça allait être une séance compliquée parce que c'était une séance d'allure spécifique où il fallait que je fasse Donc, il y avait de l'échauffement, il y avait de la récup. Et le corps de la séance, il y avait 7 fois 1 km à allure de course. Donc, à l'allure que je voulais avoir le jour J. Et c'est un effort qui envoie parce que le jour J, tu as tendance à courir un peu plus vite que pendant tes entraînements. Et pour cette séance, j'avais décidé de faire ça sur le plat. Et après, je devais aller chez le kiné pour faire de la récup. Donc, j'étais partie d'un endroit. Et je commence à partir en me disant, ouais, j'ai pas envie, j'étais un peu fatiguée, j'avais mal au périostre, justement, j'étais pas dans le meilleur mood. Et avant de partir, on me dit, ouais, tu veux pas t'échauffer vite fait? Je dis, non, non, c'est bon, j'ai pas le temps, je dois courir 13 km, j'ai un timing serré, après, il faut que je retourne travailler. Enfin, je faisais un peu la fille qui râlait là, je dis, allez, c'est bon, j'y vais, à toute, je reviens. Et là, clairement, je pense que j'ai fait mes 100 mètres. Pour vous dire, ma montre, elle a même pas eu le temps d'enregistrer l'activité. Je cours et je pose mon pied gauche sur une genre de petit talus où il y avait un caillou, enfin bref. Boum, ça claque, je me tords la cheville en externe. Là, j'ai un réflexe, enfin trop bizarre, genre j'ai eu trop mal. Vite, je saute à cloche-pied, genre je pose plus mon pied au sol. Direct, je me mets accroupie, enfin assise, et je me dis, oh là là, tu t'es fait mal. Je me mets à souffler, je me dis allez, ça va passer et tout, attends, je respire parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, il faudra qu'on reparle de cette blessure. C'est que cette fameuse cheville, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, à la gym, je m'étais faite, j'ai fait une mauvaise réception à la poutre en faisant un salto et je me suis fracturé la malléole interne et j'ai fait une rupture de 2 ligaments complets, donc externe et antérieur. Et j'avais aussi une lésion au talus. Et avec tout ça, j'ai abîmé mon cartilage, ce qui a fait que j'ai dû arrêter la gymnastique parce que j'avais trop de douleurs sur les forts impacts. Et ma cheville, elle était un peu foutue et j'avais pas envie de me blesser encore. Donc j'ai arrêté la gym. Bref, donc cette cheville était fragile et quand j'ai vu que je m'étais faite mal, franchement, j'ai paniqué, je me suis dit pitié que ça aille, parce que de 1, pour le travail, c'est la galère, de 2, j'ai la course dans 3 semaines, et même, j'ai pas envie de me faire mal. Donc j'ai soufflé, au bout de quelques minutes, je me relève, je repars courir, je fais 10 mètres, et là, je me dis non, en fait, tu peux pas. Je me re-arrête, je marche un petit peu, je me remets à courir, et là, vraiment, je me dis non, c'est pas possible, t'as trop mal. Donc je me mets à rentrer en marchant, je m'arrête, je regarde ma cheville, et je vois que boum, il y a déjà un œuf, elle a gonflé. Donc j'arrive chez le kiné, vu que j'étais juste à côté. On regarde mon pied, de toute façon on sait pas trop parce que j'ai le pied tout gonflé, fallait attendre un petit peu de voir comment ça a évolué. Le soir j'étais dégoûtée, j'avais mal, mais j'arrivais à marcher. Le lendemain mon pied était un petit peu bleu. Les tests pour les ligaments, c'était pas trop fou, j'avais une grande laxité, mais d'un autre côté, j'étais déjà blessée, enfin j'avais déjà été blessée, elle était déjà assez laxe. Donc je me suis peut-être refait un ligament, j'en sais rien. On s'est dit, je vais quand même aller voir le médecin, sauf que j'y suis allée et les délais pour faire une écho, laisse tomber, c'est hyper long. Au final, je n'ai jamais fait l'écho, donc je sais pas ce que j'ai eu vraiment. À ce jour, ma cheville tient pas très très bien, il faut encore que je fasse la rééduque. Les douleurs, ça va mieux. Et j'ai pas couru, je pense, pendant 10 jours. Ensuite, on m'a strappé, j'ai fait un petit test, j'ai eu des douleurs, donc j'ai alterné marche et course. Et donc là, la course était dans 2 semaines, hein. Mais j'ai réussi à faire un 7 km. Donc déjà, ça m'a rassurée. Là, j'ai laissé passer quelques jours. 3 jours après, je me suis dit, il serait bien quand même de faire une petite séance avec du fractionné et des rappels d'intensité pour être un minimum prête et pas arriver le jour J et crever sur place. Donc là, ça a été ma séance la plus longue de la prépa parce qu'au final, je me suis encore strappée et je suis partie pour faire 11 km. C'était une séance qui était trop dure parce que je me sentais pas trop en forme, j'avais un peu mal aux pieds, j'avais arrêté il y a un moment et il y avait beaucoup d'intensité. C'était beaucoup de fractionnés, mais du fractionné assez long. Après ça, j'avais fait une marche le lendemain, c'est quand j'avais monté le pic Saint-Loup. Ensuite, le jour d'après, je suis allée courir juste 5 km, pas plus, pas moins. Et de là, c'était ma dernière séance de prépa pour clôturer cette préparation pour les 10 km. Et j'ai juste remis les baskets le samedi, donc la veille de la course, pour aller défouler mes jambes 20 minutes. C'est ce qu'on conseille de faire, histoire de se dire à ton corps, bon allez, rappelle-toi bien, parce que demain, tu vas cavaler et tu vas souffrir. On est donc au jour J, le dimanche 7 avril 2024, pour les 10 km de Montpellier. Comme j'avais partagé sur Insta un peu toute cette prépa, j'avais reçu plein de messages trop mignons. Et comme j'ai dit, j'avais l'impression que j'allais courir un marathon, genre j'avais des encouragements et tout. Il y en a même qui ont cru que je faisais un marathon. Et j'espérais que malgré la blessure, j'allais arriver à faire moins d'une heure. J'avais trop hâte de découvrir l'ambiance. Franchement, j'étais surexcitée de la course. Et ouais, c'était le moment où t'allais voir comment tu te sens, comment tu gères la chose. Et mine de rien, j'avais du stress parce que tu t'entraînes. Enfin, moi, c'était la première fois que je courais aussi régulièrement de ma vie. Et j'avais hâte de voir ce que ça allait faire et de me challenger un petit peu, de m'évaluer par rapport aux autres. Et voilà. Et clairement, il n'y a pas de petit ou de grand niveau. Vous avez le droit de stresser, même si ça va pas être. Enfin, vous n'allez pas finir premier ou première de la course, on s'en moque. Ou même, malgré votre distance, 10 km ou marathon, c'est pas grave, vous avez le droit d'être à fond. Dimanche, on courait à midi. Donc franchement, ça va parce qu'on n'a pas besoin de se lever trop tôt. On est en avril, donc même si c'est midi, il fait pas non plus hyper chaud. Pour ma part, part, ça ne m'a pas vraiment dérangée. Faut savoir que pour un 10 km, alors là, je pars en tant que diététicienne, mais l'hydratation, il n'y a pas besoin de grand-chose non plus. Pour le repas, c'est pas très compliqué. J'avais bien mangé la journée d'avant, plutôt des glucides. Et pour le matin, j'avais fait un petit déj 2h30 avant. J'avais pas très faim, mine de rien, parce que j'étais un peu stressée. Mais il fallait que je mange. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris une tartine de pain complet avec des œufs brouillés. J'avais étalé un petit peu de Saint-Mauré et j'ai pris une compote. J'ai bu un petit peu d'eau dans ma matinée. J'ai bien fait pipi parce que ça, c'est ma hantise d'avoir envie de faire pipi pendant que tu cours. C'est vraiment horrible. Donc là, j'y suis allée avant la course. Et pendant la course, je savais qu'il y avait un ravito au 5e km. Donc, je m'étais dit, tu pars sans eau et juste tu boiras deux gorgées au 5e km. C'est ce que j'ai fait. Franchement, ça m'allait bien. Je m'étais pas entraînée à boire plus que ça en plus pendant les courses. Du coup, bizarrement, une fois que j'étais sur place, j'étais moins stressée. Il y avait de l'ambiance, il y avait l'arrivée du marathon qui était en cours et même l'arrivée du semi. Donc, c'était vraiment trop cool. J'étais trop contente d'être là, il y avait des coureurs de partout. Quand je suis arrivée, il y avait la première femme du marathon qui passait la ligne d'arrivée. Donc elle venait de gagner le marathon dans sa catégorie. Elle était en larmes au passage de la ligne. Franchement, c'était trop bien, l'ambiance était hyper émouvante. D'où vient notre tour? Et quand tu cours, tu choisis un sas un petit peu dans quelle fenêtre de départ tu pars. Si tu penses mettre 1 heure, 50 minutes, 45 minutes, ainsi de suite. Moi, j'avais choisi 1 heure parce que je voulais faire moins d'1 heure. Je me suis dit, t'emballe pas, mais pas des trucs de fou. Donc dans le sas, on nous échauffe un peu, il y avait de la musique, moi je fais un peu de mobilité, je prépare ma cheville, on commence à faire un peu monter le cardio, on trottine et tout. Franchement, j'ai pas pris le temps de faire trop plus, on était un peu dans le rush, puis on profitait de l'ambiance. Et encore une fois, c'était un 10 km, pas un marathon. J'étais strappée, et là, toc départ, et en fait, je me trouve dans ce sas d'1 heure, et avec ma pote et ma sœur. Et là, je pense que j'ai fait une erreur. Il me semble qu'il y a des gens qui doivent se mettre un ou deux sas plus haut parce que je me suis retrouvée à courir avec des gens qui en fait ne sont pas partis à mon allure. Il y avait tellement de monde qu'après le parcours, enfin la largeur de la piste, on va dire de la route, se resserrait au milieu des barrières et je devais courir donc à 5,54, 5,58 et je me suis retrouvée à courir à 7,50. Au tout début, en fait, c'était même pas la course, limite, je marchais. Et là, je paniquais, je me suis dit, oh là là, mais comment tu vas faire pour tenir ton temps? Sauf qu'il y avait tellement de monde, je vous jure, impossible de doubler. Donc, je me fous le stress, j'étais en train de m'énerver, je dis, punaise, mais comment je vais faire et tout. Enfin, j'étais en train de m'énerver. Donc, je me dis, allez, c'est pas grave. Donc, le premier kilomètre, je l'ai quand même fait au final, parce qu'après, j'ai cavalé pour rattraper mon retard. Je l'ai fait à 6 minutes au kilomètre. Et petit à petit, ça se décantait un peu. Mais franchement, sur toute la course, il y avait quand même beaucoup de monde. Je me suis jamais sentie seule, tranquille. Dès qu'on voulait doubler, fallait réfléchir. Dans les virages, c'était galère. Enfin, vraiment beaucoup de monde. Donc, premier kilomètre à 6. Deuxième kilomètre, j'ai vraiment accéléré. Les 2, 3, 4, je courais vraiment enfin, vite. Plus vite que ce que je devais. On arrive au ravito. Je m'en vais petite deux gorgées d'eau. On continue. J'ai couru tout le long avec ma pote. On avait à peu près les mêmes allures. On parlait pas vraiment. On était là. Ça faisait beaucoup de ça vallonne. Un coup, ça monte un peu. Un coup, ça descend un peu. J'étais assez focus, ça se passe pas trop mal, franchement. Mais je prends pas non plus de ouf plaisir parce que je sais pas pourquoi, mais bizarrement, le fait d'être sur route, de devoir faire attention aux trottoirs, aux gens, aux virages, aux poteaux, j'avais pas l'habitude. Moi, je courais dans mes petits chemins, j'étais tranquille, il y avait personne. Et vraiment, ça m'a changé la donne. Arrivé au 8e km, franchement, je vais être honnête, ça a commencé à être dur. Je pense que le fait que j'avais un peu poussé, que j'étais allée plus vite au début pour essayer de rattraper ce temps. Ça m'avait un peu fatiguée, je commence à avoir les jambes un peu lourdes, j'avais un peu le mal de ventre et tout. Et du 8e au 10e, c'était aussi une partie mentale, dans le sens où je me suis dit, allez, surveille ta montre, ralentis pas trop, histoire de réussir à avoir ton objectif et donne tout. Et je savais que ça terminait. Pour ceux qui connaissent Montpellier, on remontait la Comédie, on arrivait jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et je savais que ça allait faire cette montée. Et la veille, je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, on termine par la montée, vas-y, tu donneras tout, tu t'arracherais, ça sera fini. Sur le moment même, je vous jure que je regrettais mes paroles parce que c'était très très long, cette montée, c'était des mètres de la mort, vraiment, c'était horrible. Donc là, je donnais tout, j'en pouvais plus. Et en fait, j'arrive à la dernière ligne droite, je vois l'Arc de Triomphe, donc le passage de l'arrivée au bout, regarde ma montre et je vois écrit 59 minutes. Et là, je me dis, ma cocotte, t'as moins d'une minute pour passer cette ligne, donc arrache-toi. Donc là, je me mets à courir, j'essaye de sprinter, mais j'en pouvais plus, franchement, c'était dur. Et j'ai passé la ligne d'arrivée à 59 minutes et 50 secondes. Franchement, sur le coup, je me suis vite fait accroupie, j'ai soufflé et j'ai un peu de la déception parce que quand je regardais mes allures du début, je me suis dit, allez, vas-y, t'es bien. Et en fait, après, j'étais obligée de ralentir parce que ça m'avait cramé. Et puis au bout de quelques minutes, je me suis dit non, mais en fait, t'es trop contente. Enfin, c'est bon, t'as fait moins d'une heure, c'est ce qui était prévu, quoi. T'emballe pas, c'est très bien, c'est la première course, tu t'es fait avoir sur plein de choses. Le départ, t'étais pas prête. Courir en ville, t'étais pas prête. Donc franchement, après, j'ai été contente et maintenant, je suis quand même contente de mon temps. J'ai eu le classement, donc j'ai fini 960e et quelques sur 2000 et quelques. Et je suis 240 et quelques sur 600 et quelques, je sais plus exactement. Féminine, je suis quasi dans le premier tiers de ma catégorie, donc ça m'a quand même encouragée. Je me suis dit, c'est bien, enfin, tu peux être contente de ce que tu as fait. Et je suis plus fière d'avoir tenu toutes mes séances d'entraînement que de ma course en soi. Mais en tout cas, quand ça a été fini, je me suis dit, c'était trop bien et t'as pas du tout envie de t'arrêter de courir. Là, tu vas prendre quelques jours de repos, mais tu vas recommencer parce que t'as bien aimé ce que t'as fait. Donc, j'ai coché mon premier 10 km avec un dossard. Il y a quelques mois, c'est en fin janvier, on m'avait dit que j'allais autant apprécier, que j'allais avoir envie de courir et que j'allais avoir envie de continuer de courir après cette course. Surtout, j'aurais pas vraiment cru. Ça demande quand même de la discipline, quelques sacrifices, parce qu'il faut prendre le temps d'aller faire ta course, il faut trouver le temps quand t'as pas envie ou quand le temps te donne pas envie. Je l'encourage parce que si tu vas doucement, tu peux prendre du plaisir au fur et à mesure. Et c'est quand même un moyen de se vider la tête. Moi, perso, quand je cours, en général, j'écoute pas de musique. Soit je regarde ce qu'il y a autour de moi, ou alors je mets un podcast. Du coup, comme je vous ai dit au début de l'épisode, le challenge entre Cory et la course à pied, c'est pas fini. J'en ai un nouveau en tête et c'est peut-être le moment de vous l'annoncer parce que je voulais pas m'arrêter là. Même si la distance ne veut rien dire, parce que tu peux continuer de t'améliorer et de performer dans un 10 km, évidemment, j'ai quand même envie de passer à l'étape supérieure. Pour que d'autres paramètres rentrent en compte, comme l'hydratation, l'alimentation, encore plus de discipline et je pense encore plus de dépassement de soi et voir si j'en suis capable. Alors, c'est un peu la suite logique et je viens de vous donner pas mal d'indices. C'est pour cela que je m'inscris au semi-marathon de 7 le 6 octobre 2024. Ce qui fait, je crois, 179 jours, il me semble, au moment où je vous parle. C'est quand même pas mal de semaines. Pas mal de mois, mais de toute façon, là, on tombe dans une période creuse parce que pendant l'été, il n'y a pas de semi-marathon. En septembre, pas beaucoup non plus. Ça va pas forcément être sur la période la plus simple parce qu'il va y avoir le mois de juillet et d'août, donc en termes de chaleur, on va être pas mal. Et en termes d'occupation et de fatigue aussi. Sauf que c'était trop facile de se dire rendez-vous en octobre, préparer mon petit semi-marathon tranquillement. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre une étape intermédiaire, manière à rendre la prépa peut-être un peu plus challengeante. Et pour le coup, je pense que je vais bien souffrir aussi. J'espère en être capable, mais donc cette étape intermédiaire, on se retrouve le 6 juillet pour un trail de 13 km. Mais attention, accrochez-vous, et c'est surtout moi qui vais devoir m'accrocher avec 700 mètres de dénivelé positif. J'embarque une copine avec moi. Franchement, j'ai peur, mais ce qui me fait moins peur, c'est que je me dis que dans des trucs comme ça, on peut marcher un petit peu. Franchement, là, je me mets aucune pression en termes de chrono. Parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Je veux juste être capable de le faire, me faire un petit 13 km, me mettre du dénivelé. Donc là, je commence une nouvelle prépa jusqu'au 6 juillet à partir de la semaine prochaine. Et après, je serai un peu plus focus sur le semi-marathon. Mais si je fais le trail, c'est pas pour rien non plus. J'en ai pas beaucoup parlé ici, mais le côté renforcement, c'était compliqué pour moi de prendre le temps entre les deux entraînements de hand, mes trois entraînements de course. J'allais au CrossFit des fois une fois par semaine, mais franchement, j'arrivais pas à lier tout avec le travail, les réseaux, etc. Donc là, travailler sur une prépa trail, ça va aussi me permettre de me muscler. Parce que si je me muscle pas assez, je risque pas de courir plus vite et je risque pas de pouvoir tenir 21 km sans mourir sur place. Donc il va falloir que je trouve des petits coins de garrigue, du dénivelé pour souffrir un peu plus. Et voilà, deux nouvelles aventures folles. Donc l'objectif, c'est vraiment le semi d'octobre. Mais au milieu, bah, il y a quand même ce trail en juillet qu'il va pas falloir laisser de côté du coup. Je vous ferai des petits débriefs de temps en temps. Et s'il y en a qui décident de s'inscrire à des courses, que ce soit des 10 km, des semis, des marathons, des trails, peu importe, n'hésitez pas à m'écrire, à me partager vos tips, vos séances d'entraînement ou vos retours même sur le podcast. En tout cas, ça y est, j'ai lâché la bombe. Je vais aller annoncer ça sur Insta aussi. On se retrouve très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a motivé et peut-être que certains ont envie de se mettre à la course à pied ou un autre sport. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et souhaitez-moi bon courage.